Je m'appelle Vendry Goubet, je suis entrepreneur et parieur. J'ai cofondé House of Bets, un gestionnaire de bankroll automatisé qui, grâce à des connexions sécurisées avec les bookmakers, te permet d'avoir le bilan de tes paris sportifs sans effort. J'avais envie de créer un rendez-vous pour discuter avec d'autres parieurs, d'autres entrepreneurs, d'autres acteurs du monde des paris sportifs. J'en avais marre d'un marché cloisonné, empêtré dans son ego, ses secrets et sa mauvaise image. Je veux parler vision, droit, fiscalité, stratégie, comment façonner ce secteur demain, comment répondre aux enjeux d'équité, de dépendance, quelle fiscalité pour les parieurs, quelle loi pour le législateur, quelles règles pour le bookmaker, les questions sont nombreuses. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec une personne que je connais très bien, parce que c'était une des premières personnes que j'ai suivies dans le monde du betting, une des premières personnes avec qui j'ai vraiment beaucoup discuté, qui est inconnu sous le nom de Nico Appli, sous ce magnifique pseudo, et qui depuis quelques temps s'est spécialisé, s'est pris d'une passion pour les matchs truqués, pour essayer de comprendre leur fonctionnement, pour essayer de trouver quels matchs sont truqués, pour essayer de vraiment d'aller comprendre ce fléau pourri qui défonce notre sport, enfin pas que notre sport, tous les sports qui existent d'ailleurs. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement de tout ça, de comprendre comment Nico va aller chercher ces informations et essayer de trouver ces matchs truqués pour essayer de les démasquer. Et puis, on a pas mal d'exemples croustillants qui ont eu lieu ces dernières années dont on pourra parler, ça devrait être assez sympa. Écoute, bonjour Nico, merci beaucoup d'être là.
Eh ben, merci de m'avoir invité. Hein.
Je t'en prie. Je te laisse rapidement te présenter en plus de ce que je viens de dire pour nous dire un petit peu ce qui t'a amené à te passionner pour ce sujet-là. Peut-être te refaire ton chemin un peu betting ces dernières années, parce que dans mes souvenirs, au tout début, quand je t'ai connu, c'était il y a quand même plusieurs années, tu étais déjà sur les matchs exotiques, sur les matchs un peu bizarres quand moi je m'intéressais encore qu'à la Ligue 1 en tant que bon footix. Mais donc voilà, refaire potentiellement un petit peu ton chemin et puis nous expliquer pourquoi tu es parti sur ce sujet-là.
Ouais, alors moi je parie depuis ça doit faire une dizaine d'années. Et à l'époque, alors je pense que c'est là où tu m'as connu, j'avais une page Facebook qui s'appelait Nico Prono 1x2. Alors c'était à l'époque où il y avait très peu de pages Facebook. Il y avait KLN Prono, il y avait déjà Cat James Prono. Enfin, il y avait deux, trois escrocs comme ça qui étaient très bien placés avec beaucoup de followers sur le milieu. Moi, j'avais lancé ma petite page comme ça et effectivement, j'étais déjà un peu spécialisé dans les matchs truqués. Tu as dit dans ton intro qu'à un moment, j'avais pris un virage vers les matchs truqués. En fait, je proposais déjà ces matchs, mais je n'appelais pas ça match truqué en fait, parce que vu que c'était déjà de base les matchs truqués, c'est très mal vu. J'étais un spécialiste de football exotique et je proposais mes pronostics sur le football exotique, mais les pronostics que je proposais, ils étaient déjà issus de mon analyse qui m'amenait à penser que les matchs étaient potentiellement suspectés d'être truqués.
Donc, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même sur Facebook une magnifique escroquerie qui traîne depuis longtemps, qui est celle de faire croire aux gens qu'on a des matchs truqués, qu'on va vendre des matchs truqués en disant « j'ai une info en Italie et je l'échange contre une PaySafe card de 50 €. » Ça, c'est des escrocs, il ne faut pas les croire. Donc, c'est pour ça que c'est très mal vu sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait du beurre en faisant croire à l'argent facile. Ça marche généralement très bien sur les réseaux sociaux. Sur le dernier podcast, on parlait de Prono Club. Bah, c'était à peu près le même principe, sauf que ce n'était pas sur les matchs truqués, mais ça restait de l'argent facile. Généralement, argent facile égale, il ne faut pas y aller. Il n'y a pas d'argent facile, ça ne sert à rien d'y aller. Et donc, oui, je comprends. En effet, il vaut mieux éviter de dire je vends des matchs truqués ou je cherche des matchs truqués, parce que beaucoup vont te dire ah, mec, je ne tombe pas dans le panneau. Alors que toi, tu n'étais pas du tout dans cette optique-là.
Ouais, c'est ça. Il y a une grosse arnaque qui s'est répandue pendant des années sur Facebook, notamment, où les gens vendaient même des scores exacts. Ce soir, j'ai le score exact entre le Real Madrid et Liverpool en demi-finale de Ligue des Champions.
Oui, ça, c'est
et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient à chaque fois un score différent à chaque personne en message privé. Et il suffisait qu'ils arrivent. Forcément, à force de donner un score à chacun, il y en a bien un qui gagnait. Et du coup, après, hop, ils te photoshop un petit ticket, ils te le postent sur la page. Et puis, voilà, tu as le mec qui vient commenter. Ah oui, c'est vrai, j'ai gagné. Voilà, c'est ça. Ils bloquent les autres et puis le gagnant, ils le mettent bien en avant. Et puis, c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'arnaques. Par contre, effectivement, des matchs, ça existe, il y en a. Et c'est possible de suspecter une magouille, et c'est en ça que consiste mon travail et mes
Mais alors
paris sportifs.
pourquoi t'es parti sur ça? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit c'est plus facile de tirer un avantage sur le bookmaker en allant essayer de trouver des informations directement du marché? Est-ce que tu t'es dit c'est un milieu qui est tellement c'est un milieu tellement obscur que c'est hyper attirant, l'obscurité, le côté un petit peu mafieux, etc. Tu as envie d'aller voir, tu as envie de découvrir, tu as envie de comprendre. Ou alors est-ce que c'était pour te différencier, te démarquer de ce qui se faisait à l'époque, ou alors c'est juste du hasard? Ou alors tu es fan de la Roumanie, du championnat bulgare, je ne sais pas, hein, ça peut aussi être quelque chose.
Alors, en fait, je pense qu'au début, quand j'ai commencé à vraiment poser la question, pourquoi est-ce que tous les parieurs perdent de l'argent? Et en fait, au début, je m'étais mis en tête que les bookmakers, je sais pas, des techniques en place qui permettaient de battre les parieurs à tous les coups. Et en
Un
réfléchissant
peu
bien,
théorie
je
du
me
complot.
suis, voilà, un peu théorie du complot. Ah oui, la FDJ a truqué le match, la FDJ a acheté le match, etc. Il y avait
Ouais.
toujours des gens comme ça à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, sur les réseaux
Ah si,
sociaux
mais ça existe toujours, hein.
Ah, ça existe toujours, tu vois. Et donc moi, ça, tu vois, je voyais ça et ça me faisait rigoler. Et quelque part, il y avait quand même quelque chose dans mon cerveau qui me disait, mais c'est vrai que enfin, les matchs truqués, ça existe, enfin, ça doit exister. Et je
Mais
me suis
c'est
mis
purement
vraiment à...
psychologique, hein, mais on a toujours l'impression que le match le plus parié du soir, je sais pas, si en Ligue des Champions, tout le monde va sur un Manchester United, par exemple, bah, surtout cette saison, c'est le favori qui va foirer. Alors c'est sans doute un biais, c'est sans doute une impression, c'est juste que tout le monde a parié sur lui, c'est la surprise qui choque le plus. Mais souvent, on a l'impression que le pari populaire du jour, alors je pense que si tu mets un algo sur Twitter, que tu prends le tips public qui est le plus revenu, je pense que tu peux potentiellement gagner de l'argent en faisant l'inverse.
Ouais, je
C'est
pense.
l'impression que
Et
ça donne.
d'ailleurs, c'est marrant que tu dises ça parce que à l'époque, j'avais d'ailleurs, enfin, j'avais commencé à développer une stratégie justement en pariant à chaque fois l'inverse de. J'avais appelé ça la méthode anti-footix. Je pariais l'inverse des footix. Et
L'anti-Kate James.
c'est ça. Et ce que je faisais en fait, c'est que je prenais chaque jour les matchs les plus et je misais l'inverse en fait.
Et c'était
Le
rentable?
problème, c'est que alors, c'était rentable, mais le. Alors, déjà, le ROI n'était pas si fou que ça. Bah, toute la journée, je devais être à chaque fois devant Betfair pour savoir les mises, quel match parier, etc. Je pense que ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire dans ces
J'avais
cas-là.
essayé, moi, sur Blogabet, ça faisait partie, tu sais, quand tu commences à parier et que tu cherches ta martingale, persuadé que toi, tu vas la trouver, alors que ça fait 20 ans que tout le monde la cherche et que personne ne l'a trouvée. J'avais essayé aussi de me dire, je vais sur Bloga et je prends tous les tips publics des gens qui ne mettent pas d'analyse. Vous savez, les mecs qui ont reset 15 fois leur compte et qui, tous les jours, prennent tous les favoris. Et j'avais essayé, puis j'avais arrêté au bout de 2 semaines parce que déjà, en effet, ça prend beaucoup trop de temps. Et puis, ça n'a aucune valeur mathématique. Enfin, ça vaut rien. C'est juste du.
Oui, ça vaut rien, mais c'est juste que t'as envie d'essayer, je pense. T'avais envie d'essayer, et
Exactement.
puis voilà, moi aussi. Mais
Mais.
bref, au début, justement, donc je cherchais donc autour des matchs truqués. Alors au début, j'analysais les cotes, j'analysais les variations de cotes. Je ne connaissais pas encore Betfair, j'analysais ça sur Pronosoft. Donc ça existe
Okay.
encore. Et je pense que c'est à l'époque, c'était vraiment le site référence. Si tu te souviens, Pronosoft, enfin, moi en tout cas,
Bah,
j'allais tous les jours sur
ouais.
Pronosoft.
C'était le site référence et même aujourd'hui, ça reste du top 2, voire top 1 du site les plus consultés sur le thème betting en France.
Ok, ah, okay. Bah, je ne savais pas, mais je savais que ça existait encore, que c'était encore pas mal utilisé, mais en tout cas à l'époque, ça devait être top 1, top 2, je pense.
Bah,
Parce que
tout le
moi,
temps
j'y allais tout
maintenant, hein,
le
tout le
temps
temps
et tous
maintenant.
mes potes y allaient. Ouais, voilà, toujours maintenant. Et donc, je regardais les variations de code sur Pronosoft, sur les matchs exotiques. J'analysais un peu le classement et finalement, en fait, si la variation de code était, je ne sais pas, sur le 19e contre le 2e, bah, je me disais, ah, c'est louche. Mais en fait, ça n'avait aucun sens de faire comme ça. Là, je t'explique vraiment les débuts de ma démarche où
Oui,
vraiment je faisais des choses qui n'avaient aucun sens.
mais c'est marrant quand même,
Ça
parce que
fait
c'est en
un
faisant des
peu,
choses qui n'ont
voilà.
aucun sens que tu as trouvé.
Voilà. Et c'est ça après qui m'a amené à faire des choses un peu plus sensées. Et donc après, j'ai découvert Betfair. Là, j'ai halluciné parce que je pouvais voir en fait directement les mises qui était placé par les parieurs sur Betfair. Et c'est là où j'ai commencé vraiment pour la première fois à découvrir de vrais matchs truqués, comme par exemple, tu as 100 000 euros qui sont posés sur la victoire d'une équipe en Lituanie, alors que d'habitude, c'est une ligue où tu as 5 000 euros de liquidité. Sur ces 100 000 euros, tu as un but contre son camp, un pénalty, un rouge. Tu regardes le résumé du match, et c'est là où je me suis vraiment dit, ah ok, donc les matchs truqués, ça existe. C'est pas en Ligue des Champions, c'est pas dans les matchs Real Madrid-Liverpool comme veulent nous le faire croire les vendeurs de fixettes Facebook, mais c'est bien dans ces petits championnats. Et là, je suis devenu fou et je me suis passionné vraiment pour ce secteur. La plupart de mes paris aujourd'hui et depuis pas mal d'années, bah, c'est que sur les matchs truqués. Je me suis énormément documenté là-dessus. J'ai lu des bouquins sur les matchs truqués. J'ai regardé des reportages. J'ai cherché à comprendre vraiment comment, quelle était la, bah, pourquoi les matchs étaient truqués en fait. Comment s'organise un match truqué. Et
Alors ça, on va y revenir juste après, mais aujourd'hui, du coup, ton activité quotidienne majeure, c'est aller fouiner sur Betfair et sur les sites équivalents, dont on parlera après, pour trouver des matchs truqués, pour en parler, etc. Ou alors tu arrives à en tirer un revenu conséquent, ou alors tu es obligé quand même d'avoir un rythme de vie qui est réparti entre le travail, entre les paris sportifs, ou encore autre chose, hein. Tu es libre de faire ce que tu veux, bien sûr.
Oui, alors les paris sportifs et les matchs truqués, ce n'est pas mon activité principale. J'ai pas envie d'être parieur pro parce que c'est un rythme de vie. Enfin, c'est pas le rythme de vie que je veux. Du stress au quotidien, c'est même au niveau social, c'est compliqué si tu veux pour faire des projets, etc.
Oui,
C'est pas ce que je souhaite.
alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est que donc, dans ton cheminement pour comprendre les matchs truqués, etc., OK, il y a les mises. Donc ça, c'est ce qui potentiellement se voir de notre côté parieur, de notre côté juste curieux, être humain, enfin être humain curieux plutôt. Mais comment ça se passe, puisque tu as eu le temps de voir plein de documentaires et de lire pas mal de bouquins sur le sujet. Quels sont les championnats ou les sports sur lesquels on va avoir le plus de matchs truqués? Quel est le fonctionnement? Est-ce que c'est uniquement mafieux? Est-ce que c'est des mecs, des propriétaires de clubs qui, pour renflouer les caisses, vont parfois aller chercher une autre source de revenus, même si celle-ci est complètement illégale? Qui paye qui? Est-ce qu'il faut payer un arbitre? Ça suffit? Est-ce que tu vas payer 11 joueurs d'une équipe? Est-ce que tu vas en payer deux? Est-ce que tu payes que le gardien? Enfin, comment s'organise en fait, si on devait prendre un match truqué type en foot ou par exemple en tennis, si tu me dis que le tennis, il y a énormément de matchs truqués aussi, enfin, a priori, il y en a aussi beaucoup, quel est le fonctionnement en fait en amont pour que le match truqué se passe comme prévu? Parce que, alors, il y a forcément des matchs truqués qui ne se passent pas comme prévu, où tu as un mec qui a payé et puis il perd quand même son pari, ça doit arriver. Mais c'est quoi le process pour se dire, bon, bah, je suis fixeur, je vais aller truquer un match, pardon. Comment ça se passe?
Déjà, au niveau des sports, le sport le plus touché par les matchs truqués aujourd'hui, on le sait, c'est le football. C'est le football, ensuite tu as le tennis, et il y a un troisième sport qui commence à être vraiment très touché par les matchs truqués. Ce n'est pas un sport classique, mais c'est le e-sport, notamment les compétitions sur Counter-Strike ou sur FIFA, Sportradar. Ont sorti des statistiques là-dessus où ils ont vu vraiment des mouvements très louches sur le e-sport. Donc ça commence vraiment à prendre de l'ampleur. Alors moi, je me suis vraiment spécialisé sur le football. Pour trouver qu'un match soit truqué, il faut qu'il y ait un procès, il faut des preuves, et on ne peut pas affirmer qu'un match est truqué tant qu'on n'a pas de preuves ou tant que ça n'a pas été jugé. Il y a des chiffres qui sont sortis, par exemple, depuis le début de la pandémie de Covid-19. Sportradar nous a affirmé que 1100 matchs potentiellement truqués bah, ont été détectés depuis le début de la pandémie. Alors,
Donc,
c'est
juste pour remettre dans le contexte, la pandémie de Covid, ça a commencé il y a 18 mois, ça fait
depuis
plus d'un match
avril
par jour.
2020.
Donc, ça
Voilà,
fait
depuis
plus d'un
avril
match par jour
2020.
truqué.
C'est ça. Et alors, ces 1100 matchs, c'est pas seulement du football. C'est football, tennis, e-sport compris.
OK. Mais c'est tous les matchs qui ont été repérés par Sportradar. C'est-à-dire que potentiellement, il y en a beaucoup plus sur lequel il y a eu des mouvements bizarres, des petits trucages, et que ça n'a pas été repéré. Ça, c'est 1100 matchs où il y a suspicion repérée par une grosse entreprise qui surveille les marchés. C'est énorme.
Ça, c'est ça, sachant que Sportradar, s'ils disent qu'il y a une suspicion de match truqué, ils ne le sortent pas. Ils le sortent. Eux, ils ont une énorme base de données, ils travaillent avec les bookmakers, ils ont des algorithmes, ils savent très bien sur une rencontre les sommes qui doivent être misées, l'évolution des cotes, comment la cote doit évoluer en fonction du scénario du match. Et
Ouais.
eux, ils sont capables d'estimer, ça fait des années qu'ils connaissent le domaine des matchs truqués, qu'ils voient son évolution. Et ils savent très bien, en gros, s'ils disent qu'il y a une suspicion de match, vraiment pour eux, il y a quelque chose de louche. Et après, ce n'est pas leur boulot d'aller faire un procès ou d'aller interpeller les mecs. Après, c'est à l'UEFA, à la FIFA, etc.,
Ouais,
d'aller
si
voir
on
ça.
prend une chaîne de dénonciation du match truqué, tu as des boîtes privées comme Sportradar qui peuvent mettre des alertes, tu as les bookmakers qui peuvent mettre des alertes en fonction des mises. Puis après, derrière, il faut rappeler qu'il y a un énorme processus qui est des différentes autorités. Donc d'abord, ça peut être l'ANJ, ça peut être d'autres autorités en Europe ou ailleurs, qui décident ensuite de porter plainte. Ensuite, il y a la police qui doit mener son enquête. Ensuite, il y a un procès. Et à l'issue du procès, on déclare si oui ou non le match est truqué, et si oui ou non il y a des coupables et s'ils doivent être condamnés. Donc c'est extrêmement long.
Voilà, c'est ça. Et donc, il y a aussi 500 matchs de football qui ont été évalués comme suspects en 2021. Donc ça aussi c'est également une statistique qui a été sortie par Sportradar. Donc, et ça ne fait qu'évoluer. En fait, si tu regardes la courbe des matchs truqués, enfin des matchs suspects détectés par Sportradar, ça a vraiment explosé depuis le début de la pandémie. Et il y a une raison à ça qui est expliqué également par Sportradar, c'est que déjà, il y a eu un manque d'argent dans les clubs. Il y a des clubs qui n'ont pas pu payer les salaires de leurs joueurs, notamment dans les championnats exotiques, dans les petites ligues, hein, puisque c'est notamment les petites ligues qui sont touchées par les matchs truqués, hein. Quand je parle de petites ligues, en France, ça serait national et en dessous. On va dire qu'il y a très peu de matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2, voire pas du tout en Ligue 1 et très peu en Ligue 2 qui sont truqués.
Logiquement, les petites ligues, donc soit les championnats inférieurs, soit les pays dans lesquels il y a moins d'argent qui tourne, c'est logique, le budget du champion ou même du cinquième club de Lituanie a moins d'argent que le cinquième de Ligue 2 en France. Donc à partir de là, forcément, ces gens peuvent être plus touchés.
Voilà, et
Et donc on disait que
du coup,
forcément,
c'est
le
plus
Covid
facile
avait eu un
d'approcher les
impact.
joueurs. Voilà, c'est ça. Et du coup,
Okay.
le Covid, c'est encore plus facile d'approcher les joueurs, parce que forcément, il y a des joueurs qui ont des retards de salaire, voire qui n'ont pas du tout de salaire. Il y a des contrats qui ont été renégociés en Ligue 1. On avait demandé aux joueurs de Ligue 1 de faire des efforts, même aux joueurs de Marseille et du PSG de baisser leur
Ouais,
salaire.
c'est vrai.
Bah, si on demande aux joueurs du PSG de baisser leur salaire ou de Marseille ou du Barça, eh ben, on va également demander à des joueurs qui jouent dans des divisions inférieures de baisser leur salaire. Et
Eux, on va même pas leur demander, a
forcément,
priori. Tu vas
voilà, on va
juste
leur
leur dire,
baisser
j'ai baissé ton
directement.
salaire.
Et forcément, les joueurs n'ont déjà pas des salaires de stars à la base. Et en plus, ils vont baisser leur salaire. Donc, pour les mafieux, c'est du pain béni. Et donc, après,
OK.
comment ça s'organise? Alors, moi, j'ai lu le livre de Wilson, Ratch Perumal. On en reparlera plus tard dans le podcast si tu veux. Lui, il a été qualifié comme étant le plus gros truqueur de matchs truqués dans l'histoire récente du football. Donc, c'est un gars qui vient de Singapour. Alors, au début, il a commencé par truquer des petits matchs en Asie. Puis après, il est monté en grade, on va dire. Il a pu truquer des matchs de Coupe d'Afrique des Nations, des matchs de qualif en Coupe du
Ça, c'est
Monde,
incroyable.
etc. Ouais, ça, c'est incroyable. Et lui, il explique en gros comment il arrive à truquer des matchs. Alors, il y a deux façons que lui, il a utilisées. La première manière, c'est de payer les joueurs. Alors, lui, ce qu'il faisait en général, c'est qu'il payait deux ou trois joueurs, le gardien et les défenseurs centraux. Ça, c'est quand il pariait sur la défaite d'une équipe ou sur le nombre de buts dans le match. Par exemple, s'il voulait qu'il y ait au moins trois buts dans le match, il payait les deux défenseurs centraux et le gardien, et puis il leur disait, en gros, vous laissez passer les buts.
Ouais.
Il pouvait payer également l'attaquant. L'avant-centre. Alors, il payait l'avant-centre plus les deux ailiers. Les gars, vous tirez dans les tribunes. La technique de corrompre les joueurs, il l'a utilisée à un moment et finalement, il s'est rendu compte que ce n'était pas la meilleure technique parce que souvent, les joueurs vont craindre un peu pour leur carrière. Ils vont craindre parce que si tu te fais choper pour match truqué et
Tu
que
dégages.
voilà, tu dégages et finalement, ta carrière est terminée. Et puis en plus, t'as une mauvaise réputation. Enfin, c'est vraiment la fin pour toi. Donc,
Sachant
ce
qu'a
qui s'est
priori,
rendu.
tu contactais trois joueurs et puis le reste de l'équipe n'en entendait jamais parler. Donc, en effet, c'était vraiment les trois joueurs quand ils rentraient au vestiaire après c'était 4-0. A priori, ils passaient pas une bonne soirée. Ils étaient certes
C'est
riches, mais ils
ça,
n'avaient plus d'amis.
en plus. En plus, je pense qu'ils se faisaient pourrir par leurs coéquipiers. Et donc, ce
Okay.
qui s'est rendu compte, c'est que les joueurs paniqués, qui finalement changeaient d'avis, qui se disaient, bah non, je ne peux pas truquer le match, machin, c'est trop risqué pour moi. Et finalement, ils ne truquaient pas le match et gardaient la moitié de la somme que Wilson leur avait donnée. Et finalement, le match n'était pas truqué. Donc, Wilson, non seulement il perdait l'argent qu'il avait donné aux joueurs, en plus, il perdait la somme qu'il avait misée sur son pari. Et donc, il s'est dit que voilà, les joueurs, c'était risqué. Alors, ce qu'il faisait, c'est
Okay.
que il payait l'arbitre central et il payait les deux arbitres de touche. En général, c'est un trio. Et donc, alors, il payait l'arbitre central quand il voulait des buts. Il demandait à l'arbitre central de mettre des cartons rouges et de siffler des pénaltys. Donc, ça, c'est quand il pariait sur les overs, sur le nombre de buts dans le match. Voilà, tu donnes des
C'est
pénaltys,
que
tu
ça
mets des
paraît
rouges
simple
comme
comme
ça.
stratégie.
Bah, c'est simple, c'est simple. Tu mets des rouges, moins il y a de joueurs sur le terrain, plus il y a d'espace, plus c'est facile de mettre des buts.
Oui, logique.
Voilà. Et quand il voulait pas de but, des fois, il pariait sur les unders. Et bah là, il demandait aux arbiffres de touche de siffler tout le temps des hors-jeux. À chaque fois, les mecs levaient leur drapeau, hop, hors-jeu. Et
Ouais.
ça marchait très bien également. Néanmoins, il y a quelque chose quand même qui faisait que ça pouvait quand même faire échouer le match truqué. C'est par exemple avec les pénaltys. Il nous donne un exemple d'un match. Je crois que c'était un match international. Je ne sais plus quel match c'est, mais l'arbitre avait sifflé un pénalty. Donc, c'est ce que lui avait demandé Wilson. Hop, le joueur, il a raté le pénalty. L'arbitre a fait ressiffler le pénalty. Il utilisait une excuse du style le gardien est trop avancé ou un joueur est
Ouais.
rentré dans la surface pour ressiffler le pénalty. Le joueur a re-raté le pénalty. Donc ensuite, plus tard dans le match, il a ressifflé un pénalty. Le joueur a encore raté le pénalty. Donc après, bon, l'arbitre, il a laissé tomber, il a plus donné de pénalty. Et après, à la fin du match, Wilson est allé voir l'arbitre. J'aurais pu siffler 5 ou 6 pénaltys.
Il en aurait pas foutu un dans les
J'aurais raté de
dernières.
toute façon. Voilà. Et donc, la morale, ce que lui dit Wilson, c'est que même si vous truquez le match, que vous payez les arbitres, les joueurs, etc., au final, il y a 22 acteurs sur le terrain. Ça reste du football. Si les mecs ont les pieds carrés, ils ont les pieds carrés. C'est-à-dire
Et
que, voilà, même
ça a
en.
pu arriver d'avoir du double trucage où tu as un mec qui va payer l'arbitre pour qu'il siffle des pénaux et tu as un mec qui paye l'attaquant pour que le mec tire dans les tribunes
Ah oui, non, mais
et tu
alors
te retrouves
ça, il
comme un
nous en
con.
parle aussi. Ça, il nous en parle aussi parce qu'évidemment, Wilson, il avait des concurrents également. Et alors, ce qui est excellent, c'est quand il y a deux mafias, truc le même match, mais qui veulent
C'est
pas le même
incroyable.
résultat. Ça, c'est incroyable. Et alors, il nous parlait, alors c'était un match, c'était la Chine, je crois, contre une autre équipe. Et il y avait donc l'équipe de Wilson qui avait parié sur l'under. Et l'autre équipe de mafia qui avait parié sur l'over. Et donc, en fait, tu avais les arbitres de Wilson qui faisaient que de siffler des hors-jeux. Et puis Wilson avait dit aux joueurs, bah, les gars, vous encaissez pas de but ce soir, et puis vous aurez votre billet, quoi. Et puis derrière, tu avais l'autre équipe qui essayait de marquer à fond. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça qui nous donnent dans le livre.
Ça, c'est incroyable.
Donc, ouais, ça, c'est incroyable. Et donc, évidemment, ça, c'est aussi un problème. Voilà, c'est un des risques du métier. Tu as plusieurs risques. Et finalement, c'est ça, en fait, qui est assez dingue. Et moi, qui m'a frappé dans le livre, c'est qu'en fait, tu te dis, même en truquant un match de football, tu n'as pas 100% de réussite, en fait. Mais nous, on est là dans nos paris sportifs. On essaye d'avoir le meilleur taux de réussite possible. Tu te dis, mais mec, en fait, 80% de réussite, c'est le taux de réussite qu'ont les mecs qui truquent des
Qui
matchs
truque
de
les matchs,
football.
ouais.
Pas les matchs et tu vas nous dire que tu as 80% de réussite. Donc
Mais c'est marrant de remettre en
c'est ça qui est
perspective en disant
frappant.
ça. C'est une bonne
Ben
idée
ouais,
hein, pour détruire
c'est.
l'argumentaire marketing des escrocs. Tu as des
Ben
exemples
vas-y.
des plus gros matchs Alors, tu m'as parlé d'un site, justement, alors ce Wilson Raj Perumal là, qui a écrit son bouquin, donc lui, c'est un repenti. Donc, il s'est fait gauler, il y a eu des procès, il a été condamné et il a travaillé avec la police pour expliquer justement si on peut aujourd'hui expliquer aussi bien le fonctionnement des matchs truqués, c'est parce que justement il a décidé de collaborer avec les autorités.
Ouais.
Il a un site, donc il a publié un bouquin, il y a un site qui existe sur lequel il y a, alors je serais incapable de prononcer le nom correctement, je te laisse à le faire, mais sur lequel il explique un petit peu le mode de fonctionnement et surtout sur lequel il y a beaucoup d'exemples avec vidéo à l'appui de matchs truqués et pas des matchs de merde, quoi. On n'est pas que sur de la division 4, de la division 5 de championnat dans des pays un peu perdus. Il y a des exemples marquants quand même de matchs importants qui ont été truqués. Ça, je pense que tu peux en donner quelques-uns parce que c'est assez marquant.
Donc c'est un site issu du livre. Donc le livre c'est Kelong Kings. Donc pour ceux qui veulent l'acheter, alors c'est un livre qui est uniquement en anglais. Il n'a pas été traduit en français. Vous pouvez le trouver sur Internet. Moi je pense qu'il est sur
On
Amazon. À
mettra
l'époque
le
je
lien
l'avais
dans la
acheté sur
description du
voilà
podcast,
on
de toute
met
façon.
voilà tu mettras le lien. Et donc sur son site en fait il te met des résumés de matchs qui sont issus du livre. À chaque fois donc dans le livre il te livre des anecdotes sur les matchs qu'ils ont truqués. Et sur son site, tu peux retrouver les extraits des matchs. Et effectivement, comme tu dis, il y a vraiment des matchs. Alors, tu as des matchs de Serie A, par exemple. Tu peux retrouver un Napoli-Sampdoria qui date de 2011. Tu as notamment Edinson Cavani qui joue et qui marque dans ce match. Tu as un Équateur-Venezuela. Et à chaque fois, en fait, aussi en dessous, il te donne le résumé en fait de ce qu'il avait prévu. Et en fait, à chaque fois, voilà, il t'explique ce qui s'est passé dans le match. Tu as également un Bolivie-Venezuela. Alors, tu as énormément de matchs internationaux. Et tu peux
Et
regarder
t'as des
les
matchs de coupe,
résumés.
enfin,
Alors,
t'as pas des matchs de Coupe du Monde, mais t'as des matchs de qualification de Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises.
ouais, c'est ça. Alors, il y a eu des matchs de Coupe du Monde, puisque tu en parles, qui ont été truqués, mais qui n'ont pas été truqués par l'équipe de Wilson, mais il en parle également dans le livre. Alors, il y a un autre bouquin également qui s'appelle Comment truquer un match de football.
Au moins, ça le
Match.
mérite d'être clair.
Ouais, alors là, c'est un journaliste canadien qui a écrit ce livre. Et lui, il parle des matchs de la Coupe du Monde 2006.
OK.
Notamment, alors lui, pour lui, il y a eu 4 ou 5 matchs qui ont été truqués en Coupe du Monde 2006. Je crois que c'était un Brésil-Ghana.
OK.
Et lui, voilà, il t'apporte la preuve dans le livre
Il y a eu des
que le match
procès
a
pour
été
ces matchs-là,
truqué.
ou alors c'est lui qui affirme que en se documentant et en investiguant derrière, il y a eu enquête, ou alors c'est uniquement le travail du journaliste qui vient dire que le match est truqué?
Alors, il y a eu une enquête parce que forcément, ce que lui, il affirme dans son livre, ça sort pas de nulle part. Alors
Ouais.
après, je sais pas s'il y a eu des jugements. Encore une fois, c'est hyper compliqué. D'avoir la preuve que le match est truqué, et c'est ça qui est hyper compliqué. Et pourquoi il y a autant de matchs truqués en fait? C'est parce que c'est très compliqué de trouver une enquête, ça prend énormément de temps, ça demande des moyens. Et quand tu vois que rien qu'en 2021, il y a eu 500 matchs de football qui ont été truqués, je comprends honnêtement que la FIFA et l'UEFA soient totalement dépassés, quoi. Parce que comment tu fais? Alors, je ne sais pas si toi, tu as un avis sur la question, mais qu'est-ce que tu mettrais en place pour empêcher ce phénomène? Moi, ça me
Ah non,
paraît
mais
compliqué,
alors,
honnêtement.
ouais. C'est hyper compliqué, surtout qu'a priori, le mec qui truque le match n'habite pas nécessairement dans le pays. Tu as des mises qui sont placées un petit peu partout dans le monde. Ça m'intéressera d'ailleurs de savoir si, demander si, comment ils font pour placer leurs mises. Est-ce que tout part sur Betfair? Est-ce qu'il y a des mecs qui vont parier en liquide dans ce qui serait un équivalent du bureau de tabac à l'étranger? Enfin, comme c'est impossible d'aller choper un réseau où potentiellement tu as 150 000 euros qui sont misés. En petite coupure de 5 000 dans 50 pays dans le monde, avec un mec qui a demandé, un mec au Brésil qui a demandé à truquer un match en Europe, un autre qui est en Europe qui a demandé à truquer un match à Singapour. Enfin, il faudrait que tous les pays du monde décident de se pencher sur la question, qu'il y ait des moyens énormes qui soient mis, qu'il y ait une surveillance énorme. Ou alors, il faudrait que tous les joueurs soient déjà millionnaires pour dire, bah non, mec, j'ai pas du tout envie de risquer ma carrière pour 10 000 euros pour truquer un match. Mais bon, on est loin. Donc d'ailleurs, tiens, ça m'intéresserait de le savoir. Les mises sont placées comment? Puisque c'est pas, comme je dis, a priori, c'est pas un mec qui va placer 100 000 euros avec un compte vérifié avec sa carte d'identité.
Non, alors y a alors en général, les mises se passent en Asie. En Asie, ce qui
OK.
se passe, c'est que tu as des shops, donc un peu le système de bureau de tabac comme nous on a en France, un peu plus le système de shop comme en Belgique. En fait, ils ont des mecs qui payent en Asie, donc ça peut être des mecs comme toi et moi, c'est n'importe qui. Et ils leur donnent une somme d'argent et puis ils leur disent, bah voilà, dès que tu as mon signal, tu vas miser sur tel résultat dans les shops en Asie, puis tu me renvoies un signal ou un message dès que c'est confirmé. Donc les mecs vont miser dans le shop en Asie. Hop, dès que c'est confirmé, ils disent OK, c'est confirmé. Et ce qui se passe, c'est que tu as un mec dans la tribune qui est présent au stade. Et alors ça, je te parle quand le match est truqué en live. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, la plupart des matchs sont organisés en fait directement pendant le match. Donc évidemment, il y a un contact avec les joueurs avant le match où on dit aux joueurs, bon bah voilà, on aimerait truquer tel résultat. Mais les mises vont être en live parce que en live, alors déjà, ça va permettre d'alerter moins rapidement les bookmakers et les autorités parce qu'évidemment, si tu as 100 000 euros qui sont misés en pré-match sur un petit match de troisième ou quatrième division, bah, les bookmakers vont directement suspendre les paris sur le match. Alors qu'en live, en général, tu as beaucoup plus de mises et ça va être beaucoup plus compliqué de suspendre, d'arrêter le pari en live, etc. Une fois que tout est mis en place, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc, une fois que les mises ont été placées en live, bah, on dit ça au mec qui est dans les tribunes et le mec dans les tribunes, en gros, il va faire un signal au joueur. Ça peut être par exemple un pouce en l'air. Il va faire un pouce en l'air et il va confirmer au joueur.
Incroyable.
C'est bon, vous pouvez truquer le match. Et à l'inverse, le match truqué peut être annulé en live, c'est-à-dire que ce qui peut se passer, c'est que les books disent non, non, on annule. Et du coup, tous les paris sont annulés. Et donc là,
OK.
bah, le mec qui est dans les tribunes, il doit faire un signe au joueur en mode voilà, jouez normalement. Le match n'est
Jouer
pas truqué.
normalement, vous ne serez pas payé.
Voilà, c'est ça, c'est ça. N'encaissez
OK.
pas 4 buts aujourd'hui, jouez normalement. Donc ça se
OK.
fait vraiment en live. Alors, t'as des matchs qui sont aussi truqués en pré-match, où là, bon, bah, du coup, tout est misé en pré-match, mais ouais, ce que j'ai vu et dans ce que j'ai lu, etc., c'est plutôt comme ça que ça se passe.
Et toi, si on te donnait les pouvoirs demain pour dire j'arrête les matchs truqués, je trouve une solution politique, économique, sportive pour arrêter les matchs truqués, il y a un truc qui est possible ou alors c'est peine perdue pour toi aussi?
Bon, déjà, les matchs truqués, ça existe quand même depuis la nuit des temps. Donc aujourd'hui,
Ouais.
avec les paris en ligne, c'est beaucoup plus facile. Non, pour moi, les matchs truqués, ça fait vraiment partie du sport. Et moi, mon avis, c'est que déjà, le football, de manière générale, est devenu un business. Dans un milieu où il y a autant d'argent qui circule, bah, qu'il y ait forcément les systèmes mafieux qui s'intéressent à ce milieu. Et en fait, tout le monde veut sa part du gâteau, quoi. Tout le monde veut prendre l'argent là où il est. Tu vois ce que je veux dire?
Donc pour toi, on peut, enfin, parce que tu vois, on pourrait imaginer, par exemple, quand c'est une solution un peu radicale, mais tu vois, quand on se dit qu'aujourd'hui, on peut parier sur des tournois ITF de tennis, là, je switch sur le tennis, mais où tu as le mec, s'il gagne le tournoi, il gagne 10 000 euros. En effet, quelqu'un qui veut le truquer le match et qui lui propose au premier tour de toucher ces 10 000 euros, forcément, la tentation est plus forte, tu vois. Est-ce que le fait de limiter les paris à certaines compétitions, comme le fait l'ANJ. D'ailleurs, c'est un argument mis en avant par l'ANJ. On contrôle les paris ouverts en France parce que ça évite des matchs truqués. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, est-ce que potentiellement limiter en fait les matchs sur lesquels on peut parier, ce serait une solution pour diminuer le nombre de matchs truqués? Ou alors non, mais de toute façon, ils se reporteraient sur les matchs autorisés d'une manière ou d'une autre.
Bah déjà, il faudrait que ce soit fait dans le monde entier.
Oui, c'est
C'est fait
vrai.
en France avec l'ANJ. Il faudrait que ce soit vraiment généralisé. Donc déjà, ça me paraît compliqué à mettre en place. Il y aurait forcément des pays ou des bookmakers qui diraient, bah non, nous, on a encore envie de proposer des matchs D4 au Vietnam. Donc s'il y avait que les truqueurs qui pariaient sur ce match, évidemment que les bookmakers d'eux-mêmes, en fait, ils arrêteraient les paris sur la compétition. Mais s'ils le proposent, c'est qu'il y a un intérêt. Et puis après, il faudrait décider quelles sont les compétitions et les matchs qu'on arrête de proposer et sur quels critères? Donc ça, ce serait aussi une réflexion à avoir. Et est-ce que tu fais la différence entre bah tiens, telle ligue on la garde, telle ligue on l'enlève, et sachant que ça ferait perdre du chiffre d'affaires aux bookmakers et donc du chiffre d'affaires aux États, puisque par exemple en France, on sait que les bookmakers sont énormément taxés sur leur chiffre d'affaires. Donc ça ferait perdre de l'argent à l'État français. Et même en faisant tout ça, comme tu dis, qu'est-ce qui nous dit que les ne se rabattraient pas sur les compétitions bah, qui resteraient, même si ça reste des grosses compétitions. Moi, je vais te donner un exemple qui est donné dans le livre de Wilson, c'est sur la Bundesliga, où il nous dit qu'ils ont réussi à truquer des matchs avec des joueurs et des arbitres de Bundesliga, des mecs qui étaient déjà très bien payés, qui avaient des hauts salaires. Et tu te dis comment des mecs qui gagnent 150 000 ou 200 000 euros par mois peuvent être corrompus? Et bah, tout simplement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont rendus addicts aux paris sportifs. Ils les ont invités à des cafés. Voilà, je vais te citer un exemple. C'est Robert Heuser. Donc, c'est un arbitre qui était international allemand, qui officie en Bundesliga. Et lui, Robert Heuser, donc, il avait été invité par la mafia dans un café de Berlin. Toutes les semaines, il allait dans un café de Berlin, dans l'ouest de Berlin. Au bout d'un moment, il avait tellement parié qu'il était endetté. Je ne sais plus, il devait être endetté de 100 000 euros, un truc comme ça. Et bah pour rembourser sa dette, il a été obligé de truquer des matchs et il s'est fait choper. Il a été banni. Donc Robert Heuser, vous pouvez regarder, vous tapez son nom sur Google. Il y a d'autres joueurs comme ça. Il y a un joueur de Bundesliga, René, qui
René
pareil,
comment,
qui a
pardon?
René Schnitzler. Schnitzler.
Très bien.
Je t'enverrai
Je t'ai mis en difficulté sans le vouloir, là.
l'orthographe. Je t'enverrai l'orthographe exacte. Mais lui, pareil, il s'est fait choper. Il a avoué avoir truqué plusieurs matchs de Bundesliga en 2018. Et on lui a demandé pourquoi il avait truqué ces matchs. Il a dit tout simplement qu'il souffrait d'une dépendance maladive aux paris sportifs. Et donc,
Oui, ok,
voilà, c'est
oui.
pareil.
C'est vrai que...
Il y a des joueurs de foot qui sont accros au casino. Et bah pour pouvoir continuer à aller au casino toutes les semaines, en fait, même leur salaire ne leur suffit pas. Ils ont besoin de plus d'argent. Et donc voilà, en fait, il y aura toujours des solutions pour truquer un match de football. En tout cas, de mon point de vue, je ne vois pas vraiment de solution. Alors évidemment, il y a des solutions qui sont mises en place. Tu as UEFA Integrity, qui est une application en fait, sur laquelle tu peux dénoncer des matchs truqués. Si tu as des informations, tu peux envoyer tes informations à l'UEFA, de manière anonyme ou non. Et derrière, bah, l'UEFA peut te répondre. Ils peuvent voir en fait les informations que tu leur envoies. Ils peuvent
Alors ça,
te
tu m'as dit que tu l'avais
les
déjà fait, tu avais déjà signalé des matchs à cette application ou à d'autres,
Ouais.
sans... Alors peut-être qu'ils ont regardé, peut-être qu'ils se sont dit qu'il n'y avait pas assez d'éléments, peut-être que, y a une personne qui est payée pour regarder tous les signalements, donc elle est incapable de pouvoir faire son boulot correctement parce qu'elle est sous-staffée, c'est aussi possible, mais tu l'as fait, il n'y a pas eu de conséquences derrière, enfin ça n'a pas mené à quoi que ce soit.
Ouais, effectivement. Alors moi, quand j'ai vu qu'il y avait une application comme ça, bah, j'ai voulu la tester. Je me suis dit, bon, bah moi, j'ai suffisamment de preuves pour montrer qu'un match était truqué, tout du moins très suspect. Donc ce que j'ai fait, c'est que je signalais les matchs. À chaque fois, je mettais une capture d'écran d'Emise Better. Je mettais les variations de cote, je mettais la vidéo du match pour voir voilà, les actions qui étaient suspectes, par exemple. Des pénaltys, des buts contre son camp. Et donc, j'ai dû signaler cette année plus de 50 matchs, tu vois. Et j'ai
OK.
jamais eu une seule réponse de l'UEFA. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les informations que je leur ai données, finalement, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Peut-être qu'en fait, ils veulent qu'on leur donne des informations directes, genre, voilà, tel joueur a rencontré tel mafieux dans tel hôtel à telle heure. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Peut-être qu'en fait, ce que je leur envoyais, ils se disent, bon, en fait, ça sert à rien. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps, en fait, de gérer toutes les demandes, mais dans ce cas-là, pourquoi avoir créé une application si c'est pour derrière ne pas gérer les demandes? Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que toutes ces actions qui sont mises en place, c'est un peu de la démago pour dire on lutte contre les matchs truqués. Vous voyez, on lutte, mais voilà, on met des actions en place.
Qui n'ont pas vraiment de
Et,
conséquences.
voilà, les bookmakers, finalement, on se demande si, alors, ok, ils vont perdre de l'argent avec l'argent des mafieux, mais finalement, on va dire que l'argent des mafieux, ça représente peut-être, voilà, 5% de tout ce qui est misé, et derrière, t'as 95% de footix ou de parieurs lambda qui ont aucune information sur le match. Et qui eux vont perdre leur argent parce qu'ils n'ont pas la bonne information et qu'ils ont misé avec leur analyse, avec leur connaissance, parfois au hasard. Et du coup, bah, ils vont avoir par les
Ben ça,
codes.
j'ai une double question par rapport à ça. La première, c'est en effet, tout à l'heure, tu disais, si les bookmakers ne ferment pas ces ligues un peu suspectes, ça veut dire qu'ils gagnent de l'argent quelque part dessus, parce que s'ils perdaient de l'argent régulièrement sur ces ligues à cause des trucages, logiquement, ils fermeraient les ligues. Et la deuxième chose, c'est, là, c'est plutôt, je vais plutôt contredire ce que tu viens de dire, mais en le questionnant, quand tu repères par exemple un match truqué sur Betfair, a priori, ce n'est pas 5% des mises qui sont placées par les truqueurs, c'est beaucoup plus, non? Je ne sais pas si tu vois, par exemple, en Lituanie, un 50 000 euros placé, alors que normalement, je ne sais pas pourquoi je prends l'exemple que de la Lituanie, il faudrait que je change la prise de blessé des Lituaniens. Mais s'il y a 50 000 euros qui sont placés sur un match, je ne sais pas où, a priori, il y en a 45 000 qui viennent des truqueurs, tu vois, non?
Ouais, mais ce qui se passe, en fait, c'est surtout que par exemple, quand tu as 100 000 euros qui vont arriver, hop, les 100 000 euros vont être placés, mais derrière, les codes vont totalement dégringoler. Et finalement, je pense que peut-être que le bookmaker arrive à éviter le risque. Derrière, en fait, il va y avoir, vu que la cote, en fait, aura dégringolé, bah, pour les parieurs, il y aura peut-être une value qui va apparaître sur le résultat inverse, où la cote va être tellement énorme que le parieur lambda qui n'a pas l'info, il va se dire, putain, comment ça se fait que cette équipe, elle est cotée à 9, alors que pour moi, elle aurait dû être cotée à 3, etc. Et du coup, tout le monde va peut-être miser sur la cote à 9 en pensant qu'il y a une value, ou quand la cote de l'over dégringole, bah, le
Mais ça, j'ai du mal à
il va
croire
plutôt
que
miser
c'est.
sur l'under.
J'ai du mal à croire que ces mises-là viennent compenser les pertes des mises énormes placées par les truqueurs, tu vois. D'ailleurs, si on prend l'exemple du bookmaker Pinnacle, eux, généralement, un match suspect, ils vont généralement le fermer au pari assez vite.
Et en général, il saute directement.
Donc, ça veut dire que eux, ont pas, qui est considéré comme le bookmaker pro par excellence, ils ne vont pas avoir un intérêt à laisser le match en question ouvert. Ils vont dire, oh là, il y a des mises suspectes, mais on arrête, on le ferme.
Après, ce qui se passe aussi, c'est que parfois, comme je t'ai dit, il y a des matchs truqués qui sont annulés, qui vont être
Ça, c'est
annulés en
énorme.
live
Oui.
parce que les paris ont été annulés en Asie. Ou parce que bah, des fois, tout simplement, pareil, ils se rendent compte qu'il y a une double mafia présente sur le match, et du coup, ils vont pas vouloir prendre de risques, ils vont dire aux joueurs, bon, on arrête tout. Mais sauf que les parieurs lambda ont déjà vu, les mecs comme moi, par exemple, on a déjà vu les mises suspectes sur Betfair, et donc on va aller placer nos mises aussi en se disant, tiens, ce match est truqué, il y a eu 100 000 euros qui ont été misés. On va miser, on va miser, on va miser. Et finalement, il y a un effet boule de neige qui fait qu'en fait, tous les parieurs lambda qui pensent que le match est truqué vont miser sur le résultat, alors qu'en plus, la cote aura dégringolé. On va faire monter les mises, imaginons, à 300 000 euros. Et finalement,
Oui, ok,
on perd son argent parce que finalement, le match n'est pas truqué. Le match
oui.
truqué
Oui,
est
une
annulé.
fausse info qui fait boule de neige avec du coup potentiellement des mises qui commencent à exploser, du coup de nouvelles personnes qui se disent c'est bizarre, on va parier dessus aussi, et puis pouf,
Et du coup,
c'est une bulle.
c'est aussi pour ça que les bookmakers laissent le match ouvert, parce que en fait, ils savent pas vraiment si le match va vraiment être truqué. Ok, il y a des mises suspectes, donc eux, ils vont faire les cotes pour limiter leur risque. Mais finalement, si finalement le match n'est pas truqué ou qu'il y a un fail dans le trucage, etc., bah eux, c'est tout bénef pour eux, parce qu'ils vont encaisser et l'argent des truqueurs. Et l'argent de ceux qui auront suivi les mises et les variations de code sur Betfair. Donc c'est jackpot.
Ok. Bon. Et
Après,
toi,
encore une
d'un.
fois, je suis pas dans le monde des bookmakers. Je ne sais pas vraiment. Ce serait intéressant de discuter vraiment avec des mecs qui travaillent chez les books pour voir comment ils réagissent dans ces cas-là. J'ai jamais vu
Alors.
d'interview de mecs qui en parlaient, mais ce serait hyper intéressant.
Bah écoute, je vais essayer.
Peut-être
Je
dans
leur
tout
demande.
un prochain épisode.
Je leur demanderai. Et alors toi, alors même si tu n'as pas nécessairement envie de donner toute ta recette gagnante, mais c'est quoi le process pour aller, qu'est-ce qui va déclencher chez toi une alarme? De dire, déjà, est-ce que tu surveilles tous les matchs? Est-ce que tu as repéré tes championnats favoris sur lesquels il y a le plus de probabilité que le match soit truqué? Et puis après, quel est le process pour se dire, tiens, ça, c'est bizarre, je vais creuser. Ah, tiens, ça, c'est suspect, je vais creuser. Ah, ben ça, non, c'est truqué. Où est-ce que tu vois ça? Quelle info, à part les mises, donc sur Betfair, par exemple? Mais comment on fait?
J'ai certains championnats que je surveille plus particulièrement. Effectivement, je ne vais pas surveiller tous les championnats avec le temps. Alors, au début, je surveillais tous les championnats. Maintenant, avec mon expérience, on va dire, je suis capable de savoir quels championnats vont être les plus à risque et quels championnats il vaut mieux éviter. Ensuite, une fois que je connais mes championnats, le process, c'est d'abord de surveiller les variations de cote en pré-match.
OK.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un site comme OddsMath ou comme OddsPortal et je vais surveiller tout au long de la journée. Je garde le site en fond de tâche sur mon ordinateur et je peux, par exemple, programmer une alerte. Par exemple, sur OddsMath, je peux programmer une alerte qui me dit, par exemple, s'il y a une cote qui chute de plus de 40% en 1 heure, bah hop, je reçois une alerte sonore sur mon ordinateur et puis directement après, je peux aller voir qu'est-ce que c'est que ce match et cette alerte. Une fois que j'ai une alerte que je juge alarmante, je vais me pencher un peu plus sur le match. Donc là, je vais aller sur OddsPortal, je vais regarder les variations de cote vraiment sur tous les bookmakers, je vais regarder à quelle heure la cote a chuté. Et si je juge que c'est bizarre, je vais aller chercher la raison. Donc, toute variation de cote, en fait, il y a une raison. Pas forcément parce que le match est truqué, mais tu peux avoir, voilà, par exemple, voilà, des joueurs absents
Alors,
ou
j'ai
une
lu
météo.
dans un rapport de l'ANJ que ça avait compliqué leur travail, le Covid, parce que justement, il y avait des chutes de cotes monstrueuses dues à des épidémies de Covid dans une équipe, ce qui ne signifie pas que le match est truqué. C'est juste à 12 joueurs qui sont absents parce que Covid, bah, paf, logiquement, la cote s'écroule.
Oui, voilà, bah ça a compliqué aussi mon travail parce que effectivement, tu as eu de plus en plus de chutes de cotes qui étaient liées à des Covid. Et quand ça arrive dans des championnats, par exemple, quand ça arrive en Malaisie ou au Venezuela, bah, les infos, tu les trouves moins facilement que si tu as une équipe de Ligue 1 qui est décimée par le Covid. Donc après, voilà, moi, mon travail, ça consiste à aller chercher sur Twitter, sur Google, ou alors sur les sites de pronostics, par exemple Blogabet. J'essaye de trouver la raison. Si vraiment il n'y a pas de raison, qu'il n'y a pas de Covid, il n'y a pas de joueurs absents, il n'y a pas masse de parieurs qui ont parié sur ce résultat, là, je me dis, bon, ok, c'est bizarre, c'est peut-être truqué. Au-delà des variations de cote, ce qui peut être alarmant aussi, c'est le fait que plusieurs bookmakers retirent le match complètement. Alors ça arrive en pré-match, par exemple, comme tu as dit, Pinacle, eux, dès qu'ils suspectent que c'est truqué, hop, ils virent le match. Donc si Pinacle vire le match, si tu as la moitié des bookmakers qui virent le match, qui suspendent le match, là, c'est aussi bizarre. Alors, une fois que j'ai vu ça, je vais aller regarder également les mises sur Betfair. Mais en général, comme je t'ai dit, les mises sur Betfair ou en Asie, elles arrivent plutôt en live. Donc ça, je le surveille plutôt en live. Soit je prends un pari sur le match en pré-match. Si je suis sûr, si vraiment je me dis, voilà, ce match, pour moi, voilà, c'est vraiment louche. Il y a vraiment un bet intéressant à prendre, par exemple un plus de 2,5 buts ou un plus de 3,5 buts. Et je me dis, tiens, la cote peut encore dégringoler. Mais je le sens bien, je vais le prendre en pré-match. Ou si je ne suis pas sûr, que j'ai un doute, je vais attendre le live pour voir ce qui se passe en live. Et alors en live, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me trouver un streaming du match. Donc, j'ai une application qui permet de voir directement les matchs exotiques qui s'appelle Sportzone. En fait, ça te prend le lecteur 1xBet où tu peux voir, parce que 1xBet diffuse pas mal de matchs. Donc, tu as toutes les vidéos des matchs qui sont diffusées sur 1xBet. Donc,
Oui,
j'essaye
parce
de
qu'a
trouver
priori,
mon
il n'y a personne qui a payé les droits du championnat vénézuélien en France.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, si je veux aller regarder mon petit match vénézuélien sur Winamax ou sur Unibet, ça va être compliqué. Donc, je vais le trouver sur Sportzone. Sinon, j'essaye de me trouver un streaming sur Internet. Sinon, sur YouTube, parfois, les matchs sont diffusés directement sur YouTube dans certains championnats.
OK.
Donc, je vais me trouver le streaming du match. Je vais également mettre le match sur Bet365 pour voir l'évolution des cotes. Donc ça peut être également un indice intéressant en live. Et donc je vais regarder le match et puis je vais voir comment réagit le bookmaker en live. Et j'ai également mon onglet Betfair pour voir l'évolution des mises sur Betfair. Et donc ensuite, pendant le live, bah, je regarde le match, je vois déjà si le comportement des joueurs est normal ou pas. Et je regarde la réaction de Bet365. Si les paris sont régulièrement suspendus, c'est bizarre. Ce qui se passe également, c'est quand le match est truqué sur le nombre de buts à la mi-temps ou sur le résultat à la mi-temps, les bookmakers comme Bet365 suspendent directement le pari à la mi-temps. C'est-à-dire que tu peux plus parier dessus du tout. Hop, il est enlevé. Hop, on passe directement à la seconde mi-temps. Donc ça,
Okay.
c'est
On
un
oublie les
gros indice.
45 premières minutes.
Voilà, c'est ça, on oublie. Vous pariez pas sur la mi-temps. Donc ça, et puis donc les mises Betfair. Et puis après, bah voilà, si le pari est intéressant et que la cote est intéressante, parce que tu peux avoir également un match truqué où en fait la cote n'est plus du tout intéressante, donc là ça sert à rien de parier, hein. Le but, ça reste quand même de faire des paris sportifs et de gagner de l'argent, donc c'est
Oui,
bien de
si tu es
savoir.
sur une cote à 1,20 pour un over 3,5, bon.
Voilà, si des fois le jeu n'en vaut pas la chandelle, ou des fois c'est trop risqué, mais si je juge que c'est intéressant, bah je vais prendre le pari. Et puis je vais suivre ça en live. Donc voilà un peu le process que moi j'utilise pour mes paris.
Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait un beau tour là. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute de tout ça. Donc, j'espère que ça éclaire un peu tout le monde. C'est passionnant, je trouve, comme sujet. Il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire. Donc, merci beaucoup, Nico. Je trouve que tu as quand même balancé pas mal d'infos intéressantes. Si les gens veulent se lancer là-dedans, si les gens veulent. Je mettrai ton lien Telegram si les gens veulent discuter avec toi.
Ouais, alors après, encore une fois, je veux quand même faire un peu de prévention. C'est-à-dire que c'est bien de se lancer dans les matchs truqués, mais vous ne gagnerez pas d'argent dans les matchs truqués si vous n'avez déjà pas les bonnes méthodes pour gagner au pari sportif de manière générale. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de gestion de bankroll, que vous n'êtes déjà pas rigoureux dans vos paris. Les matchs truqués, c'est pas une méthode miracle. C'est-à-dire que moi, au début, quand j'ai commencé les matchs truqués, ok, c'était bien, j'arrivais à détecter des matchs truqués, j'étais content, mais je perdais de l'argent parce que je tiltais, parce que justement, en fait, il y a beaucoup plus de risques de tilter sur un match truqué, parce que quand tu vois des sommes astronomiques qui sont misées sur un résultat, bah, tu te dis,
Oui,
en
t'as
fait,
envie
c'est
d'envoyer une sacoche.
envie d'envoyer 100% de ta bankroll, tu te dis c'est sûr ça va passer. Et au final, bah, comme on l'a dit dans le podcast, il y a plein de cas de figure où en fait ça peut être du fake, ou ça peut être annulé, ou ça peut pas passer. Et du coup, bah, faut faire quand même extrêmement attention. Et moi, même en pariant sur des matchs truqués, je parie toujours maximum 2% de ma bankroll. En général, je parie 1% et je m'y tiens. Et voilà,
C'est vrai qu'on
faut.
ne rappelle jamais assez ses bonnes habitudes, donc merci beaucoup d'avoir fait un point dessus. Les matchs truqués ne sont pas une méthode miracle, c'est juste
Et puis,
un côté un peu marrant, un peu curieux, un peu horrible aussi, surtout plus que marrant d'ailleurs, du betting dans le monde. Et c'est intéressant de s'y plonger pour essayer de comprendre le fonctionnement, même si malheureusement on n'a pas de solution a priori aujourd'hui pour éviter ce problème.
ouais,
Ok, bon.
exactement.
Bah écoute, merci beaucoup Nico. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, on se retrouve dans un mois. Vous verrez qui sera le prochain invité. Mais je tenais absolument à aborder ce sujet des matchs truqués assez rapidement puisque c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et Nico, je trouve, en parle À merveille. Donc écoute, merci beaucoup. Et puis à bientôt. À très vite. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci à House of Bets de sponsoriser cet épisode. Si vous avez des questions, des remarques, des idées d'invités, vous pouvez nous écrire sur contact@houseofbets.co ou alors vous rendre directement sur le site houseofbets.co pour trouver des liens Telegram, Facebook, Twitter ou encore LinkedIn. Merci de partager cet épisode à une personne de votre entourage qui parie et que ça pourrait intéresser. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.